L'émission que vous allez suivre maintenant n'est pas un direct. C'est une rediffusion. Laissez monter votre adrénaline avec Sportify.
Tous les samedis matins, plongez au cœur du game. Découverte, interview et dernières actualités sportives. C'est dans Sportify.
Du cyclisme à la natation, en passant par le basketball et bien plus encore, ne manquez pas le rendez-vous incontournable des passionnés de sport.
Sportify, le rendez-vous des champions. Chaque samedi de 10h30 à 12h. Exclusivement sur Volume 3.
Sur Volume 3.
Sportify, la vibe du game avec Tina Anjongo.
Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous des gagnants, le rendez-vous des sportifs, des passionnés de sport, la vibe du game sur Volume 3 Cameroun tous les samedis entre 10h30 et 12h. Venez vivre avec nous l'actualité sportive de toute la semaine. On fait le point et bien sûr c'est sur Volume 3. Vous avez téléchargé l'application Volume 3 Cameroun disponible sur Play Store, je l'espère en tout cas. Si vous entendez ma voix, vous êtes au bon endroit pour être informé sur la actualité sportive. Nous aurons également tout à l'heure de nombreuses rubriques pour faire le point, en commençant par le récap parce que la semaine a été longue. Le Scrabble, le football, le sambo, la savate, la semaine a été meublée en termes d'activité sportive et nous faisons le point dans le récap. Quelle aura été pour vous l'actualité marquante de la semaine? Vos avis sont nombreux. L'actualité a été brûlante cette semaine en termes de sport. La plus brûlante d'ailleurs, celle d'hier avec la liste des joueurs convoqués pour la dernière fenêtre FIFA. Ce qui concerne les Lions indomptables pour leur 9e et 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On revient sur cette actualité tout à l'heure dans le récap. Les rendez-vous importants du week-end sont à suivre dans le mix sport, que vous soyez amateur de football, de basketball ou de cyclisme, sans parler de handball, de scrabble. Vous aurez toutes les activités sportives à suivre durant le week-end, des activités qui concernent bien sûr tous ces joueurs que vous supportez. Et n'hésitez pas à vous rendre dans les aires de jeu aussi, c'est possible, pour supporter vos stars, entre guillemets. Nous prendrons également le pouls de l'actualité sportive à l'étranger avec notre correspondante Jasmine Ferré. Dans Sportsimus, nous parlerons de ces chansons, de ces hymnes qui ont joué un rôle important dans de grands événements sportifs. Et ce samedi, nous nous intéressons à 5 événements sportifs majeurs. Et enfin, on terminera avec un saut sport ou alors cette rubrique hors du commun que nous vous faisons découvrir aujourd'hui. Et ce samedi, nous allons à la découverte d'un sport. Je suis sûre que vous n'en avez jamais entendu parler. C'est un sport qui concerne les orteils. C'est un peu comme le bras de fer, mais ça n'a rien à voir avec le bras de fer. Ce sera tout à l'heure dans Asso Sport. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Volume 3 Cameroun. L'émission, c'est Sportify. Installez-vous, on débute maintenant.
Toute l'actualité sportive de la semaine. Le récap dans Sportify.
Le week-end dernier, le gymnase du stade Omnisport de Yaoundé a vibré au rythme du tournoi international Open de Sambo de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en abrégé CIAC. Un moment de joie, mais aussi de pratique pour les acteurs de la discipline. Le Cameroun, pays hôte, a brillé avec plus d'une dizaine de médailles. Et ce matin, nous faisons le point avec notre stagiaire Martin Luther-Pi.
Ce 27 septembre, Yaoundé est devenue la capitale africaine du Sambo. La ville a accueilli la deuxième édition du tournoi Open International CEEAC de Sambo. Une compétition qui s'est tenue au gymnase multisport de Mfandena. Organisée par la Fédération Camerounaise de Sambo avec l'appui de la Fédération Internationale, l'événement a réuni des athlètes venus de 9 pays parmi lesquels le Cameroun, la Centrafrique, le Niger, la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Maroc et le Gabon. Au programme, des combats en sambo sport et sambo combat, hommes et femmes, toutes catégories confondues. De quoi offrir un spectacle de haut niveau et surtout une vitrine pour le développement de cette discipline encore jeune en Afrique. Le Cameroun, hôte de la compétition, a brillé à domicile avec 11 médailles d'or et plusieurs autres en argent et bronze. Confirmant son statut de nation montante du sambo, les athlètes d'Oko ont eu le soutien du public pour rivaliser avec les meilleurs de la sous-région. Loin d'une simple compétition, cela a été un moment de sport, de partage et d'unité au sein de la CEEA.
Parlons à présent de Scrabble, le tournoi Open classique d'ouverture de saison s'est achevé. Nous avons débuté la semaine avec cette actualité et il s'est achevé sur une bonne note pour King Josaphat Chowa. La compétition a duré trois journées. Professionnels et amateurs se sont donnés à la discipline. Et ce matin, nous revenons sur ces trois jours de compétition.
Le rideau est tombé ce 28 septembre sur l'Open Classic de Scrabble, disputé depuis le 26 septembre. Et c'est King Josaphat Chowa qui s'est offert le trône. Le champion a dominé de bout en bout la grande finale, s'imposant face à Raymond Lovette Isaac sur le score sec de 3 manches à 0. Nous écoutons le champion.
C'est une grande joie, c'est un soulagement parce que je n'avais jamais gagné de tournoi en variante classique. J'excelle plus en variante du cricket et ayant déjà fait la finale des championnats du monde classique il y a 2 mois au Canada. Donc là, j'avais un statut de favori si on considère les événements récents. Donc j'ai tenu mon rang, j'ai bien joué, je pense, sur l'ensemble des journées. Je n'ai jamais été classé pire que la deuxième place. Donc.
Un succès sans appel qui confirme la régularité et la maîtrise tactique de Chowa, déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la scène nationale. Face à un adversaire redoutable, il n'a jamais tremblé, imposant son rythme et sa stratégie dès les premiers tirages. Au-delà du duel, cette édition de l'Open Classic a réuni plusieurs passionnés et a permis de mettre en valeur la discipline. Le secrétaire général Mitende Eyoko s'exprime.
On va dire que c'était un très bon événement, les choses sont passées dans de très bonnes conditions. On a réussi à regrouper une quarantaine de joueurs pour le début de saison. C'était une très bonne chose, ça annonce les couleurs pour la saison à venir. Donc on est plutôt satisfait pour le déroulement du début de saison. Tout le monde a été là, tout le monde. Et on remercie tous ceux qui ont pu participer.
Une belle fête de l'esprit conclue par le sacre de King Josaphat Chowa, roi incontesté des lettres et des mots.
Roi incontesté des lettres, vous l'avez dit, King Josaphat Chowa, qui a déjà écrit son nom en lettres d'or dans la variante duplicate sur le plan national et international, se disait très satisfait d'avoir soulevé ce trophée en variante classique. D'ailleurs, à l'issue du tournoi, il est revenu sur tous les contours de la compétition.
Alors, le rideau s'est refermé sur le premier tournoi de Scrabble classique de la nouvelle saison à la Fédération Camerounaise de Scrabble. Il s'agissait de l'Open de Douala en 24 rondes. Déjà, je dois signaler que c'est quelque chose d'inédit parce que on n'avait jamais joué en 24 rondes un tournoi local au Cameroun. C'est plus un standard de championnat du monde. Donc, c'est déjà à féliciter parce que plus on avance dans les rondes, moins il y a de facteurs chance et plus les résultats sont... fiable. Donc, j'ai aimé le fait qu'on soit monté à 24 rondes déjà. Mon premier commentaire au sujet du tournoi. Après, le tournoi a été impeccable. L'organisation était au top. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de couac. C'était vraiment correct. On a respecté les horaires. Donc, un coup de chapeau à l'organisation, à la fédération et au DTN notamment. Après, bon, moi, comment je l'ai vécu dans les fait, j'ai très bien commencé. Pourtant, à l'arrivée, je manquais de sommeil. J'avais pas suffisamment dormi. J'avais dormi à peine 2 heures de temps avant. Et j'étais pas dans les meilleures dispositions physiques pour bien jouer. Mais à ma grande surprise, au terme de la première journée, j'étais premier avec 7 victoires en autant de matchs. Donc, invaincu. J'étais le seul joueur invaincu après 7 matchs. Je suis revenu le deuxième jour, donc samedi. Ça s'est plutôt bien passé. À la fin de la journée, j'étais encore premier. Cette fois-ci, après 20 matchs, j'avais un total de 17 victoires et 3 défaites. Et enfin, je suis revenu dimanche, donc le troisième et dernier jour du tournoi. J'ai consolidé ma première place. Je me suis qualifié pour la finale. Et en finale, ça s'est très bien passé pour moi contre le capitaine de l'équipe nationale de Scrap du Cameroun, qui est Isaac Raymond Lovett, un joueur pour qui j'ai beaucoup d'estime et un grand frère dans la discipline, et qui n'a pas démérité. Je pense que j'ai eu plus de chance sur l'ensemble des matchs, et j'ai aussi fait de bons choix. Donc je gagne la finale, je remporte les 3 manches de la finale, et je suis très content. Pour moi, c'est une première victoire en tournoi officiel, en classique, parce qu'il faut signaler que le Scrabble a 2 variantes, la variante duplicate et la variante classique. La variante duplicate, c'est celle qu'on joue le plus en compétition, et c'est celle dans laquelle j'ai été 4 fois champion d'Afrique et 4e mondial 2 fois déjà. Et la variante classique, c'est celle où mes résultats commencent à être intéressants, parce que pendant plusieurs années, j'ai joué au classique sans avoir des résultats vraiment à mon honneur. Donc là, j'ai été vice-champion du monde déjà en juillet, et là, pour l'Open, le premier Open de la saison, je remporte. Je suis très content, je suis très fier de moi, de ce que j'ai pu accomplir, et voilà, c'est ça. Je dis merci à tous ceux qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui m'ont laissé des mots gentils, qui m'ont motivé pour ce tournoi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt, dans quelques semaines, pour les prochains tournois, les prochaines aventures de KJC dans la discipline Scrabble. Donc notamment, les prochains tournois se referont en duplicate. Et après, on alternera des tournois de classique et de duplicate. Et je crois que dans les 2 variantes, maintenant, j'ai mon mot à dire. Très content d'avoir pu livrer mes impressions, et bonne fin de journée.
Merci King Josaphat Choa, bonne fin de journée à vous également. On continue le récap, cette fois on parle de football. Marc Brice a dévoilé ce vendredi 3 octobre la liste des 26 lions indomptables convoqués pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les 9e et 10e journées. Le Cameroun affrontera, il faut le rappeler, l'île Maurice et l'Angola les 8 et 13 octobre prochains respectivement à Saint-Pierre et à Yaoundé. La liste est la suivante. Au poste de gardien de but ont été convoqués Devi Epassi, Simon Mossola, André Onana. En défense, Samuel Junior Koto, Jackson Tchatchoua, Jean-Charles Castelletto, Nuhu Tolo, Mikael Ngandengandjoui, Najida Mahamadou, Junior Tchamadou, Malcolm Bokele. Au milieu de terrain, André-Franck Zambo Anguissa, Carlos Baleba, Arthur Avom, Martin Ongla, Fidel Brice Ambina. En attaque, Christian Bassogog, Brian Bemo, Nicolas Brice Mouminga Maleu, Franck Magri, Vincent Aboubakar, Eric Maxime Choupo-Moting, Dani Namasso, Georges Kevin Koudou, Patrick Soko et Karl Eta Eyong. Vous l'avez remarqué dans cette liste, nous avons noté la présence de 2 joueurs qui seront à leur première sélection. Il s'agit de la nouvelle pépite de la Liga espagnole, Karl Eta Eyong, et du milieu de terrain, Brice Ambina. Toujours parlant de football, cette fois chez les filles. Jeudi dernier, les Lyonnes U17 et le staff technique se sont envolés pour Casablanca au Maroc. Le groupe va prendre part à la Coupe du Monde féminine de la catégorie qui débute le 17 octobre prochain. Rappelons que 23 Lyonnes indomptables ont été convoquées pour cet événement sportif et ce sera la 3e participation du Cameroun. Parlons toujours de football féminin. Semaine compliquée pour les filles du FC Bollois, alors qu'elles avaient bien débuté la compétition. Rappelons-le, en remportant leurs 3 premiers matchs dans le tournoi qualificatif à la Ligue des Champions CAF. Elles étaient premières du groupe avec 9 points avant lundi dernier où leur rêve de participation à cette Ligue des Champions a volé en éclats après leur défaite devant le FC Kinsey de Agosto de Akonibe. Nous revenons sur cette triste journée pour les filles.
Le FC Ebonova a connu un après-midi difficile face au FC 15 de Agosto d'Akonibe qui s'est imposé avec autorité. Une rencontre marquée par l'efficacité offensive des Équato-Guinéennes et les approximations défensives des Camerounaises. Dès le coup d'envoi, Akonibe a pris les commandes du jeu, multipliant les incursions dangereuses. Rapidement, la pression a payé. Une ouverture du score logique avant que le FC 15 d'Agosto ne double la mise grâce à sa vitesse en contre-attaque. Akonibe, de son côté, a tenté de réagir. Quelques occasions franches, mais un manque de réalisme criant dans le dernier geste. Même les changements opérés à la pause n'ont pas permis d'inverser la tendance. Akonibe, plus tranche, a géré son avance et scellé une victoire qui souffre de contestation. Au coup de sifflet final, une grande déception du FC Ebolova qui voit sa dynamique stoppée net. Les Camerounaises perdent ainsi la course à la qualification. En face, Akonibe signe un succès convaincant et envoie un message clair à la rivalité. Il faudra compter sur cette équipe dans les compétitions.
Il faut dire que c'était une semaine de tournoi qualificatif aux compétitions internationales puisque les filles du coach Hassan Bala, les Lyon U20, étaient également de sortie au stade Olembe samedi dernier où elles croisaient les Nigérianes. Elles se sont largement imposées sur un score qui témoigne de la dynamique du staff et de ses ambitions pour cette compétition.
Les Lyon U20 ont répondu présents ce week-end sur la scène continentale, opposés aux Menas du Niger en match retour des qualifications pour la Coupe du Monde féminine de leur catégorie. Les Camerounais se sont imposés avec autorité sur le score éclatant de 9-0. Un résultat suffisant pour valider leur ticket pour le tour suivant après la victoire à l'aller. Portés par une attaque efficace et une défense disciplinée, les jeunes Camerounaises ont montré du caractère et un mental solide, à l'image de Sam Mouen, Maeva Niadjou, Beverly Nimpa, qui ont illuminé la rencontre avec chacun un doublé. Cette victoire confirme la progression du football féminin au Cameroun avec une nouvelle génération ambitieuse qui rêve de rejoindre l'élite mondiale. Les Lyon U20 poursuivent donc leur route avec en ligne de mire la qualification historique pour la prochaine Coupe du Monde. Un signal fort envoyé au continent, l'avenir du football féminin camerounais est bel et bien assuré.
Autre compétition, le club de la région du Sud est champion du Cameroun qui continue sa marche vers elle dans la compétition de la CAF. Après un recrutement de haute facture, ils ont pu prendre les 3 points qui étaient en jeu le week-end dernier à Dakar. Nous revenons sur cette belle affiche du groupe.
Colombe du Sud a signé un exploit retentissant ce week-end en Ligue des Champions CAF. Les Camerounais se sont imposés 1-0 face à l'ACSC Djaraf de Dakar lors du match retour du premier tour préliminaire. Dans un stade, l'Adjor de Thiès acquis à la cause de son adversaire, la Colombe a bâti sa victoire sur la solidarité défensive et l'efficacité offensive. L'unique réalisation est intervenue à la 63e minute. Une frappe croisée imparable de Adam Moussa qui a fait chavirer les supporters. Après le nul vierge décroché à l'aller au Cameroun, cette courte mais précieuse victoire offre la qualification au club du Sud Cameroun. Un succès historique pour la Colombe qui poursuit son aventure africaine et s'invite au second tour préliminaire de la prestigieuse compétition. Une performance qui confirme l'ambition des oiseaux du Sud de marquer de leur empreinte la scène continentale. Prochain défi, un adversaire d'un calibre supérieur, mais la Colombe peut désormais rêver plus grand et porter haut les couleurs du Cameroun.
Prochain défi, prochain adversaire de Colombe de DJ Lobo, ce sera donc le MC Alger lors du second tour préliminaire. En début de semaine, nous parlions du week-end où la région de l'Ouest a tenu, dans la région de l'Ouest se tenait un stage de renforcement des capacités. L'événement qui a duré du 26 au 28 septembre a été un moment marquant pour les acteurs de la discipline de la savate, puisque nous parlons de la savate ce matin.
Le week-end dernier, à Foumban, s'est tenu le stage de renforcement des compétences. La Ligue régionale de savate a terminé une formation de 3 jours. Athlètes, officiels et entraîneurs se sont retrouvés dans une ambiance studieuse avec un objectif, améliorer leur maîtrise technique, tactique et organisationnelle. Leurs encadreurs, tout comme les participants, ont salué la qualité des enseignements reçus et l'engagement de la fédération à donner un nouvel élan à la discipline dans la région de l'Ouest. Ce séminaire a également permis de renforcer la cohésion entre les différents acteurs et d'harmoniser les méthodes de travail. Les participants repartent désormais mieux outillés pour représenter la savate camerounaise sur les tatamis nationaux. Une initiative qui illustre la volonté des responsables de faire de la savate boxe française et discipline affinitaire une locomotive dans le paysage sportif camerounais.
Revenons dans la région du littoral, l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale a organisé le week-end dernier à Douala un stage de renforcement des capacités des arbitres. Les objectifs, c'est dans cet élément.
L'UNIFAC a ouvert un stage inédit destiné aux arbitres de la sous-région. L'objectif, renforcer leurs compétences, non seulement techniques, mais aussi psychologiques. Dans un football où la pression est permanente, les officiels doivent aujourd'hui aller au-delà du simple sifflet. Ils doivent être capables de désamorcer les tensions, de communiquer efficacement avec joueurs et entraîneurs et de maintenir la discipline sur le terrain sans recourir systématiquement aux sanctions. Ce séminaire, encadré par des experts, place donc la psychologie au cœur de l'arbitrage. Un domaine encore très peu exploré, mais désormais jugé indispensable pour assurer la fluidité et l'équité du jeu. Pour l'UNIFAC, c'est un signal fort. Améliorer la qualité de l'arbitrage, c'est aussi garantir le développement du football en Afrique centrale. Car un bon arbitre, c'est avant tout celui qui sait faire respecter les règles tout en gardant le jeu vivant.
La semaine a été meublée par la Ligue des Champions, la deuxième journée qui s'est ouverte mardi dernier. Et pour le coup, le Real Madrid s'est imposé face au Kazakhs de Kairat Almaty sur le score de 5-0. L'Atlético de Madrid pour cette deuxième journée a laminé Francfort par 5-1. Liverpool, contre toute attente, s'inclinait devant Galatasaray 0-1, pendant que l'Olympique de Marseille marchait sur l'Ajax Amsterdam 4-0. Une victoire soulageante pour le directeur sportif Mehdi Benassia. Une belle performance de l'attaquant brésilien Igor Pixão, auteur d'un doublé qui s'est exprimé au terme de la rencontre.
Je suis très heureux. Grâce à Dieu, j'ai pu marquer ces deux buts. Cette équipe est extrêmement qualifiée et on a donné un grand spectacle aujourd'hui. Ma famille était ici, ils m'ont soutenu, mon père, d'autres membres de ma famille. C'était incroyable de voir le Vélodrome assis ici, comme ça. Oui, votre papa ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Extrêmement gratifiant ce match et de la confiance pour l'équipe. Et en cet entraîneur qui nous soutient et qui nous porte, qui nous emmène plus loin.
En restant Ligue des Champions, il a finalement eu lieu le choc tant attendu par les fans de football. C'était mercredi soir. Le Barça accueillait le Paris Saint-Germain pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Une rencontre qui s'est décidée en toute fin de partie, sur laquelle revient Jiří Šengepi ce matin.
Elle était annoncée comme la rencontre des rois. Et au bout du compte, c'est le champion d'Europe qui a rappelé sa couronne.
Au bout du compte, au bout de la nuit, au bout de l'envie, qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain.
Dès les premières notes de la rencontre, le Barça se penche à droite avec Lamine Yamal pour faire danser la défense parisienne. Et puis, à la 19e minute, l'œuvre prend toute sa forme.
Trop facile cette passe de Vitinha, Yamal, plein axe avec Pedri qui peut organiser le jeu, le bon ballon de Rashford. C'est pour Ferran Torres, pas signalé en position de hors-jeu. Et après 19 minutes de jeu, le Barça concrétise sa domination et fait plier le Paris Saint-Germain 1-0 pour le Barça.
Récupération de Yamal, relève de Rashford et puis Ferran Torres conclut d'un très net 1-0 pour le Barça. Mais Paris est champion d'Europe et un champion ne baisse pas sa plume. Avant la pause, Seni Mahiulu, 19 ans, égalise et à un but partout, la partie reprend son souffle. En seconde période, les Catalans essaient d'imposer leur style. Mais Paris ferme les chapitres avec rigueur. Et au bout du suspense à la 90e minute, Gonzalo Ramos surgit.
Mais Hakimi accélère et il a vu Ramos qui a de l'avance. Gonzalo Ramos! Au bout du bout, les Parisiens et Gonzalo Ramos qui font basculer et plier le Barça dans le temps additionnel.
Montjuïc a vibré tel un festin de jeu que les spectateurs n'ont pas seulement été scotchés, ils se sont régalés, surtout face au choix du coach parisien qui se sont avérés concluants.
Combien de coachs sur cette planète auraient aligné au Camp Nou dans un match un petit peu de gala à l'extérieur alors qu'il a sur son banc de touche Gonzalo Ramos qui a coûté 90 millions, attaquant international, et Kanginli quand même qui est un joueur voilà qui a fait quand même des matchs d'un certain niveau, les aurait laissés sur le banc pour mettre Mahiulu et Mbaye titulaire.
Le Barça avait commencé en poésie, mais le point final, c'est le PSG champion d'Europe qui l'a écrit d'une plume impeccable.
À votre suite, écoutons le coach parisien Luis Enrique, satisfait du niveau de la rencontre.
Ça a été, je pense, un grand match pour tout le monde. Des équipes qui jouent très bien football, avec joueurs de qualité. Je pense que tout le monde a profité d'un match de haut, haut niveau.
Dans les autres rencontres de cette soirée-là, Karabakh s'est imposé par 2-0 devant Copenhague, pendant que l'Union Saint-Gilloise s'inclinait 0-4 devant Newcastle. L'AS Monaco et Manchester City ont fait match nul de 2-2. Arsenal s'est imposé 2-0 devant l'Olympiakos. 1-2, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre le Bayern Leverkusen et le PSV Eindhoven. Pendant que Dortmund s'imposait par 4-1 devant l'Athletic Bilbao, Napoli s'est imposé 2-1 devant Sporting Lisbonne et Villarreal et Juventus se sont séparés sur un score nul de 2-2. Il est quelle heure, vous dites? Il est 10h59, j'ai toujours une heure d'avance. Il est 10h59, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur volume 3, l'émission c'est Sportify, votre hebdomadaire consacré au sport. Nous sommes toujours dans le récap et cette fois nous allons parler de l'actualité sportive marquante de la semaine vue par nos auditeurs. Qu'est-ce qui pour vous a été l'actualité sport qui vous a le plus marqué?
Ce que je pourrais dire sur les Lions indomptables et le joueur que j'aimerais voir ou les joueurs, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est le jeune Karl Etaeyong. Parce qu'on va dire ce qu'on va dire, mais c'est un jeune qui est très efficace depuis le début de la saison du côté de l'Espagne. Avec son club, Osasuna, il fait un début de saison vraiment énorme pour un joueur qui n'était pas connu, pour un joueur qui n'a jamais vraiment laissé planer l'ombre d'un véritable véritable succès. Je pense qu'il s'est bien démarqué en ce début de saison et on devrait lui donner sa chance. On devrait lui donner une vitrine d'expression pour qu'il puisse montrer aussi de quoi il est capable. Je pense que c'est l'un des critères pour être sélectionné à l'équipe nationale, c'est celui de la performance. Parce que vous voyez, c'est l'un des compartiments qui nous embête un peu dans cette équipe nationale. On n'arrive pas à trouver cet attaquant-là qui va dégainer à tout moment, qui va pouvoir mettre la balle au fond. Avec la forme dont il bénéficie depuis le début de saison du côté de l'Espagne, je pense qu'on doit l'essayer pour qu'il montre véritablement qu'il a sa place dans cette équipe.
Alors, nous avons fait un travail de préalable avant la sortie de la liste des Lions Indomptables, qui était de savoir et de vous demander quels étaient les joueurs que vous attendiez dans cette liste, et également un travail sur l'actualité sportive de la semaine. Maintenant que Pied nous dit que c'est le travail est mélangé, bah, on va écouter hein, ce qu'on écoute. On écoute, sachez juste que nous avons travaillé sur ces deux pôles-là hein, pour ce samedi matin.
Moi, je rêve de voir Amadou Daouda parce que c'est un jeune milieu de terrain prometteur qui a été élu meilleur joueur à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Il évolue au championnat de la MLS. Je pense qu'il doit avoir une chance. Il est très jeune et il a fait de très bonnes performances dans les matchs qu'il a eu à jouer en MLS. Il fait pas mal son petit parcours, mais il mérite d'être convoqué.
Moi, particulièrement, les nouveaux joueurs que j'aimerais voir au niveau de la tanière, c'est plus au niveau de l'attaque. C'est vrai qu'on a tous les attaquants qu'il nous faut pour le moment. Mais moi, j'aimerais particulièrement voir des joueurs comme Carlita et Young. Avec tout ce qu'ils démontrent actuellement en Liga, notamment avec Vente et son club, je pense qu'ils sauraient apporter quelque chose de nouveau au niveau de l'attaque des Lions Indomptables du Cameroun. Parce qu'on a, c'est vrai, on a Vincent Aboubakar qui vient juste de retrouver un club, mais le titulariser alors qu'il a plusieurs matchs sans jouer pour les prochaines échéances. Moi, je trouve pas trop sa présence importante. Donc, du coup, j'aimerais voir Carlita et Young. Et pourquoi pas aller proposer Kofane, voilà, qui propose des belles choses avec son club du côté de la Bundesliga. Ça va énormément vite là-bas de ce côté. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faudrait pour le milieu. Je crois qu'on est bon. Jusqu'à présent, on est bon pour le milieu. Et même pour la défense, on a les défenseurs qu'il faut. Moi, j'aimerais juste voir ces deux nouvelles figures, Kofane et Carlita et Young. Pourquoi pas au niveau de l'attaque des Lions et Indomptables du Cameroun.
L'actualité sportive qui m'a marqué cette semaine, je dirais deux choses, parce que je vais parler de mon pays, le Cameroun. C'est le fait, la note du secrétaire général de la FECAFOOT qui a mis de côté le sélectionneur de nos jeunes Lions pour mettre en lieu et place le sélectionneur des Lions à la place, bon, qui a écarté le sélectionneur pour des soucis qu'on a dû découvrir à son sujet. C'est important. J'ai suivi ça au journal du matin. Et puis bon, d'autres personnes m'ont dit qu'il y avait une note et tout. J'ai parcouru la note. Bon. Deuxième volet, c'est vrai que si on dit une chose, c'est celle-là. Bon, si je peux parler également sur le plan international, c'est la défaite du Barça face au PSG. Ça a permis de voir que le PSG a fait un peu asseoir sur son autorité en Europe et non pas gagner la Champions League en vain l'année dernière. Donc, ils continuent de montrer qu'ils ont un fond de jeu qui ne s'appuie pas sur une ou deux personnes, mais sur tout un groupe. Si bien que certains mentors peuvent être absents, mais l'équipe en elle-même continue de dérouler.
Déjà, l'un des joueurs que j'aimerais voir dans la liste de Marc Brice dans les jours à venir, c'est l'attaquant Carlita et Young. Actuellement, il fait partie des meilleurs attaquants du championnat de Liga. Il est cette fois décisif entre 3 et 4 passes décisives à l'Eventi. Donc, son jeu, sa patte technique, sa jeunesse sera un très grand atout pour l'équipe nationale camerounaise, surtout que on a ce problème offensif depuis beaucoup d'années. On a ce problème de neuf et on voit très bien que Aboubakar Vincent, en manque de temps de jeu, n'a plus cette force-là. Donc, Etaillon sera un atout pour nous et ça met aussi en question l'appel de Magri, mais Etaillon actuellement est au-dessus de Magri. De l'autre côté, Divis est passé parce que titulaire dans son club à Roumanie, il a le temps de jeu, peut-être pas pour déclarer au Nananon, loin de moi cette idée, mais de faire partie des trois gardiens qu'on a toujours appelés. Au moins cela, je crois qu'il est sans club, si je me trompe peu de temps. Donc, Davis est passé à sa place dans cette équipe.
Deux noms hein, reviennent du peu qu'on a pu écouter. Carlita Ayoum, d'ailleurs convoqué, et Christian Kofané. Deux joueurs dont le nom a été cité à plusieurs reprises.
Bonjour à toutes et à tous. Coup de projecteur sur deux Camerounais qui marquent le début de saison européenne de leur empreinte et ils ont conquis le public camerounais. Il s'agit de Carlita Ayoum et Christian Kofané. Vous l'avez certainement suivi dans le micro-trottoir. À seulement 21 ans, Carlita Ayoum s'impose déjà comme l'une des révélations de l'Eventé en Liga. En 6 matchs, il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives. Un rendement impressionnant pour un attaquant arrivé cette saison qui montre à la fois efficacité et générosité dans le jeu. Avec en moyenne un but toutes les 115 minutes, Ayoum s'affirme comme une pièce maîtresse de l'attaque. De son côté, Christian Kofané découvre l'univers prestigieux du Bayer Leverkusen. Le Camerounais de 19 ans grappille du temps de jeu en Bundesliga, mais c'est en Ligue des Champions qu'il s'est distingué il y a quelques jours. Un but en seulement 2 apparitions, de quoi attirer l'attention des observateurs, même si son rôle reste encore celui d'un joker dans l'effectif allemand. Deux trajectoires différentes, mais un même symbole, celui d'une jeunesse camerounaise qui s'impose en Europe. Entre l'efficacité déjà redoutable d'Ayoum et les promesses de Kofané sur la scène européenne, les Lions indomptables peuvent se tourner vers l'avenir en confiance. Et vous, lequel de ces deux talents vous tient à cœur?
Toute l'actualité sportive de la semaine. Le récap dans Sportify.
Vous êtes sur Sportif, sur volume 3, l'émission c'est Sportify et nous allons entrer dans le moment que certains d'entre vous attendent, les rendez-vous importants du week-end, que vous soyez amateur de basketball, de football, de cyclisme, entre autres, vous avez l'occasion d'avoir le programme du week-end et bien sûr c'est tous les samedis dans le Mix Sport.
L'agenda sportif du week-end, c'est dans Mix Sport.
Bonjour et bienvenue à votre rubrique Mix Sport. Que du football aujourd'hui en Première Ligue. Affiche très attendue, Manchester United et Brian Bemo affrontent Sunderland au Old Trafford ce samedi 4 octobre 2025 lorsqu'il sera 15h au Cameroun. En Espagne, Carlita Ayoum participera au clash Real Oviedo-Levante lorsqu'il sera 13h. En Allemagne, le Bayer Leverkusen sera face à l'Union Berlin à domicile. En Italie, Napoli sera face au Genoa lorsqu'il sera 18h sur ses propres installations. En Allemagne, Christian Kofané sera à la pointe de l'attaque du Bayern Leverkusen qui sera face à l'Union Berlin à domicile. En Italie, Franck Anguissa et le Napoli seront face au Genoa lorsqu'il sera 18h. Et en France, AJOC de Dani Namasso sera donc face au RC Lens lorsqu'il sera 21h. En Ligue 2, Montpellier recevra Saint-Étienne. Le gardien camerounais Simon Ngampa Douedmou, élu joueur du mois de septembre, sera de la partie. Voilà donc un week-end riche et varié.
Un mix sport essentiellement football, c'est vrai, en ce moment, en national, c'est vrai que les activités sont un peu down, en arrêt. Bientôt la reprise, à partir du mois de novembre, on aura de nombreuses activités sportives à suivre. Prenons à présent le pouls de l'actualité sportive à l'étranger. C'est avec notre correspondante Jasmine Ferret. Bonjour.
Bonjour à tous. On commence avec du football. Le Paris FC s'est imposé 2-0 hier soir en ouverture de la 7e journée de Ligue 1 face au FC Lorient. Cet après-midi, Metz reçoit l'Olympique de Marseille à 17h, Brest affrontera Nantes à 19h et ce soir Auxerre reçoit Lens, coup d'envoi de la rencontre prévu à 21h05. En Ligue 2, hier soir, Pau a battu Clermont 3-1, match nul 2 partout entre Guingamp et Nancy, même score entre Le Mans et Troyes. Amiens s'est incliné 1-0 face à Boulogne. Les compteurs sont restés à 0 dans les rencontres Bastia-Dunkerque et Annecy-Laval. Cet après-midi, Reims reçoit Grenoble à 14h, à suivre à la même heure Red Star FC Rodez. Ce soir, Montpellier affrontera Saint-Etienne, coup d'envoi de la rencontre prévue à 20h. Du rugby également ce week-end avec la 6e journée de Pro D2. Hier soir, Brive a battu au Oyonnax 33-18, victoire de Béziers 31-19 contre Carcassonne. Biarritz s'est incliné 13-19 face à Aurillac. Colomiers s'est imposé 31-5 contre Agen. Nevers a battu Soyons-Angoulême 33-10. Victoire de Valence-Romans 35-21 contre Mont-de-Marsan et défaite de Grenoble 23-24 face à Provence Rugby. Aujourd'hui, place à la cinquième journée de Top 14. Montpellier affronte La Rochelle cet après-midi à 14h30. Quatre matchs sont prévus à 16h35. Clermont, Montauban, Castres, Racing 92, Toulon, Pau et Perpignan, Stade Français. Ce soir, Bordeaux-Bègles affronte Lyon à 21h. Côté tennis, le tournoi de Shanghai se poursuit avec 5 Français en lice aujourd'hui. Royer, Cazot, Rinderknecht, Moutet et Alice. Valentin Royer affronte l'Allemand 3e mondial, Alexander Zverev. À Pékin, les demi-finales dames vont opposer aujourd'hui les Américaines Coco Gauff et Amanda Anisimova et l'Américaine Jessica Pegula à la Tchèque Linda Noskova. De la Formule 1 ce week-end avec le Grand Prix de Singapour. Hier, Alonso a remporté les essais libres 1 et Piastri les essais libres 2. Cet après-midi, place aux essais qualificatifs. Départ prévu à 15h. Et du basket en Betclic Elite. Hier soir, Cholet a battu Boulazac 92 à 81.
L'agenda sportif du week-end, c'est dans Mix Sport.
Plus besoin de radio seulement. Tu peux continuer d'écouter ton émission préférée via l'application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun.
Zoom sur l'invité du jour.
Nous l'avons annoncé dans le sommaire, ce samedi matin, nous recevrons un artiste de la construction corporelle avec qui nous allons parler des secrets de la construction du corps, de la construction physique. C'est le coach Idriss Kamdem, il est avec nous ce matin. Bonjour coach.
Bonjour Tina et bonjour à tous les auditeurs de Volume 3.
Merci, merci d'avoir accepté cette invitation. On sait que c'est un samedi matin et que généralement le samedi matin, ce sont les activités, il y en a vraiment beaucoup, mais vous avez pu être là, on vous dit merci.
Non, de rien, le plaisir est partagé.
Aujourd'hui, nous allons parler de construction, de tout ce qui est construction physique. Nous allons un peu parler de kinésithérapie
sportive. Kinésithérapie sportive.
Exactement. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi le coaching sportif?
Du moins, le coaching sportif, c'est une profession... C'est une profession dédiée à l'accompagnement et à l'optimisation des performances des individus dans le domaine de l'activité du sport. Mmh. Un bon coach, il joue plusieurs rôles, que ce soit dans le gain d'objectifs, que ce soit dans la remise en forme et la perte du poids et l'amélioration des performances physiques.
D'accord.
C'est ça le coaching sportif.
Mais tout à l'heure, je ne veux pas que vous soyez bref, parce que tout à l'heure, nous avons vraiment développé le coach sportif. Vous, en tant que coach sportif, exactement, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous faites dans une salle de sport? C'est quoi votre rôle?
Accompagner les clients et les patients, si j'aimerais dire comme ça, mm-hmm, plus en physiothérapie, dans le gain de leurs objectifs.
D'accord. Oui. Et comment vous y prenez?
On s'y prend par plusieurs méthodes. Mm-hmm. On va essayer de les détailler d'un moment à l'autre.
Ok. Oui. Donc, ce matin, puisqu'on parle de construction musculaire, de construction du corps, je vais y arriver, quels sont les principaux groupes musculaires à cibler pour une construction efficace du corps?
Les principaux groupes musculaires à cibler pour une construction efficace du sport, mm-hmm, du corps. Oui, mm-hmm, du corps, si on peut le dire comme ça. Déjà, avant de parler de construction du corps, il faudra bien savoir ce que c'est.
Oui. Exactement.
La construction du corps, de manière générale, fait généralement référence au processus, mm-hmm, de développement et renforcement des muscles, mm-hmm, et de la forme physique générale, par des exercices et un régime alimentaire adapté. Mm-hmm. Bon, ce terme est plus souvent utilisé en musculation et en bodybuilding, mm-hmm, ou en bodybuilding, si on peut le dire comme ça.
D'accord.
Oui. Où l'objectif principal est de gagner en masse musculaire ou d'augmenter sa masse musculaire et réduire sa graisse corporelle. Mm-hmm. Oui. Et améliorer la symétrie et la définition des muscles. D'accord. C'est ça la construction du corps de manière générale. Oui. Et plus détaillé, de manière plus détaillée, c'est ça la construction du corps.
Et comment vous planifiez les programmes d'entraînement personnalisés en fonction des objectifs de construction musculaire de vos clients?
Déjà, la construction musculaire, elle implique plusieurs aspects. Oui. Les entraînements en résistance, Je vais les citer en gros et puis on va les détailler par la suite.
On a
les
le temps.
Les entraînements, oui. Les entraînements en résistance, le régime alimentaire, ça c'est très important, le régime alimentaire, oui. Le repos et la récupération que beaucoup ne font pas. Oui, bah j'ai fait ce constat dans des entraînements, beaucoup. Le repos et la récupération, l'hydratation aussi. L'hydratation et après les suppléments quand on va à des niveaux un peu plus poussés en musculation, des niveaux plus élevés en musculation. Oui, c'est ça les différents aspects concernant la construction du corps.
Vous avez parlé de l'alimentation. Est-ce que en étant un coach sportif, vous avez aussi des compétences à conseiller un client sur le type d'alimentation qu'il devrait consommer pour arriver à ses objectifs?
Normalement, puisque l'alimentation joue un très grand rôle et le plus efficace même dans le rôle de la croissance musculaire. Par exemple, la consommation des protéines qui aide à la croissance et la croissance, la consommation des protéines qui aide à la croissance des muscles, la consommation des glucides ou bien des sucres qui aide au niveau de la récupération de l'énergie, ou bien de donner de l'énergie, surtout dans les entraînements intensifs. La consommation des lipides ou bien des graisses, on va dire des bonnes graisses, on va essayer de les citer d'un moment à l'autre, qui aide à la production des hormones. D'accord. Comme la testostérone, oui. Mais très important en musculation. Très important en musculation.
Ok, mais vous dites lipides, protéines. Est-ce que vous dites, est-ce que vous ciblez des aliments principaux, des aliments pouvez par exemple dire à un client, tu dois manger du poisson, tu dois manger de ci. Quels sont les aliments qu'il faut manger pour
exactement les protéines, on va dire et les produits laitiers pour commencer.
Le lait,
du poulet, la viande de bœuf. Oui, on va dire des œufs, très important les œufs. Et comme protéines, comme lipides, on va essayer de parler des bonnes graisses.
Pas en excès.
Déjà que la consommation des lipides, c'est environ 1 gramme. 0,1 gramme. 1 gramme. Les lipides, ils doivent être très bas. Sinon, après, il y a saturation au niveau des glucides et des protéines et on retombe plutôt dans du gras au lieu de le combattre ou bien on essaie de rester dans une stagnation dont on n'évolue pas. Oui. Et puis on devient plutôt gros, si on va dire comme ça, de manière simple. On devient plutôt gros, on ne gagne pas du muscle. Malgré ce qu'on va faire, on ne va pas gagner.
Et ça quand on parle de construction du corps, on parle principalement du muscle. C'est le muscle la construction du corps. C'est le muscle qu'on se construit.
Oui, c'est le muscle qu'on construit. On peut construire. Ça se construit de manière totale. C'est pas seulement le muscle.
Ah d'accord.
Le corps c'est pas seulement le muscle. Déjà qu'on a plusieurs catégories de muscles. On a les muscles striés. Ils sont des muscles qui sont majoritairement sur tout le corps, qui ont des contractions, qui sont des muscles à contraction volontaire. On a les muscles lisses, qui sont des muscles qu'on peut pas contracter nous-mêmes, par notre propre volonté, comme le cœur, le poumon, le foie, ce ne sont pas des muscles qu'on... Tu ne peux pas dire à ton poumon, contacte-toi. À ton cœur, contacte. Non, lui, il se contacte seul. Vous voyez? Oui. C'est ce qui ramène souvent à l'effet des crampes, souvent au niveau des estomacs, des choses comme ça. Oui. Et puis maintenant, on a les cartilages. Ils sont des parties, je veux pas les appeler des muscles, puisqu'ils sont prénommés cartilages, ils sont des parties. Souvent, quand vous mangez du bœuf, de la viande de bœuf, vous arrivez sous certains morceaux dans la bouche où vous dites souvent, je veux la partie qui fait cross-cross. Oui, un peu comme ça. Oui, c'est cette partie-là qu'on appelle le cartilage. Ils sont beaucoup plus situés dans le corps pour le soutien des os. Comme par exemple les cartilages intervertébraux qui sont fixés entre les articulations de la colonne vertébrale. Ou bien les tout petits os qui déterminent la colonne vertébrale. On peut dire qu'il y a le cartilage, il y a plusieurs types de cartilage. Oui, les muscles que vous trouvez au niveau des oreilles, c'est par exemple du cartilage là-bas. Okay. Ça, c'est pas des muscles striés ni des muscles lisses, c'est plutôt du cartilage. Oui.
La construction musculaire est-ce qu'elle convient à tout le monde? C'est-à-dire que est-ce que quelqu'un qui est en surpoids est autant sujet à la construction musculaire que quelqu'un qui a un bon poids, qui est bien, qui n'est pas gros? Est-ce que tout le monde peut aller pour une construction du corps?
Cette question est dépendante du client. Vous comprenez? La construction musculaire convient à tout le monde. de manière générale.
D'accord.
Celui qui est en perte de poids, celui qui, ça dépend de l'objectif du client. C'est-à-dire, il vient te trouver, coach, bonjour, j'ai besoin de, en fonction de son objectif, vous déterminez ce dont...
Je veux faire partir mon ventre, ou alors je veux juste avoir un peu de biceps, ou bien je veux juste cibler les parties du corps.
Ça veut dire que c'est une consultation. Mm-hmm. Il arrive et il dit ce qu'il veut, et puis vous planifiez, vous mettez en place un programme pour le permettre d'obtenir ce qu'il veut.
Avec des exercices ciblés.
Bien spécifiques. Mm. Ça, il faut le préciser. Bien spécifiques, puisque on ne rentre pas dans le même cadre à chaque fois. Mm-hmm. Quelqu'un qui vient en salle, ou bien quelqu'un qui vous contacte n'importe où, que ce soit sur un entraînement personnel chez lui ou en salle de gym, qui vient et puis vous dit, je fais 40 kg ou bien je fais 50 kg, j'aimerais grimper sur des masses musculaires et atteindre un poids de 70 kg ou bien 60 kg. C'est pas la même chose ou bien le pareil que celui qui vient
avec 90 kg
et qui veut faire l'inverse ou bien je sais pas, exact, le réversible de tout ce qui se passe. Donc c'est pas pareil.
D'accord.
On peut utiliser les mêmes procédés de manière inverse. Mm-hmm. Sur les deux personnes. Mm-hmm. Oui. C'est-à-dire que l'autre, on fait l'inverse du travail de l'autre. Mais il faudra mettre beaucoup de précision dans les procédés d'entraînement. Et surtout au niveau, surtout au niveau de la programmation des exercices.
Ok, et de manière générale, quels sont les principaux exercices que vous recommandez pour développer la force et la masse musculaire?
Alors, les principaux exercices, là, on va rentrer dans deux groupes d'exercices d'abord. On a l'exercice composé. Et puis, on a l'exercice isolé. Exercice composé, c'est-à-dire quoi? L'exercice qui essaye de rentrer dans le cadre où, quand vous faites l'exercice, ça développe plusieurs groupes musculaires à la fois. Mm-hmm. Et l'exercice isolé qui vise beaucoup plus à cibler un muscle spécifique, qui sont des exercices très, très techniques, où il faudra avoir un minimum de connaissances, surtout dans des conditions d'analyse posturale, sinon ça ne donne pas. Mm-hmm. C'est pour ça que la majorité des fois, quand on a affaire à un client qui arrive en salle, quand on a fini de prendre en compte ce qu'il a dit, quand on veut définir un plan de manière objective pour lui, dans les débuts, on va commencer avec des programmes exercices composés. Mm-hmm. Oui. Souvent, on dit, de manière planifiée, on commence avec du full body. Mm-hmm. Après, on va essayer d'aller, quand les progressions suivent, on va essayer d'aller sur upper body, lower body, ou bien haut du corps, bas du corps. Et puis maintenant, rentrer avec des exercices isolés. Mm-hmm. Les exercices isolés, ils sont beaucoup plus spécifiques sur des muscles. C'est-à-dire, je reste et puis j'ai déjà atteint un objectif sur 100%. J'ai atteint peut-être déjà 80% de mon objectif, mais je ne ressens pas encore peut-être assez la formation au niveau de mon ischio jambier derrière ma cuisse là-bas. Mm-hmm. Je ne ressens pas fortement mon fessier ressorti. Là, je ne vais pas me mettre dans un programme d'exercice composé encore pour développer par exemple seulement mon fessier.
C'est quoi un exercice composé?
Un exercice composé, c'est un exercice qui prend en compte plusieurs groupes musculaires quand on est en train de le faire.
Par exemple?
Le développé couché en musculation, mm-hmm, pour la formation des pectoraux, okay, ou bien du grand muscle pectoral. Mm-hmm. Quand je le fais, par exemple, quand je fais du développé couché, je travaille non seulement le pectoral, mm-hmm, je travaille les triceps arrière, je peux travailler les deltoïdes qui sont les faces latéralement opposées ou médian des épaules ou bien antérieures-postérieures. Mm-hmm. Oui. Ça, c'est un exercice composé. Quand je fais, par exemple, du développé militaire, que ce soit à la barre fixe, que ce soit avec haltère, là, je fais un exercice composé, mm-hmm, qui peut prendre en compte le travail des trapèzes, un grand muscle fixé derrière le dos, mm-hmm, on va dire sur le dos, oui, qui peut prendre en compte le développement au niveau des pectoraux, le grand dentelé fixé au-dessus des obliques en allant sur l'abdomen. Et puis, un exercice isolé, on peut, par exemple, citer un exercice isolé comme le soulevé de terre, qui va prendre en compte peut-être spécifiquement seulement l'ischio-jambier, okay, fixé derrière.
Bon, c'est beaucoup de termes techniques.
Oui.
C'est beaucoup pour nous. C'est pas très pour nous qui n'en savons rien. On aurait aimé que vous alliez un peu dans les, enfin que vous parcours, vous mettiez à un autre niveau. Quand vous dites là, par exemple, on a parlé de développer couché. Ce serait bien que vous en parliez en termes d'exercice. Bon, je vais vous raconter une petite histoire.
D'accord.
Je suis allée dans une salle de sport en début d'année.
D'accord.
Parce que je voulais faire partir mes bras et mon ventre.
D'accord.
Sauf que au début, j'avais le coach de la salle s'est un peu occupé de moi au début. Après, il m'a abandonné en me disant il y a les machines, observe comment on utilise les machines et tout.
D'accord.
Donc moi, pensant que en utilisant les il y avait une machine pour les bras qu'il fallait ramener vers l'avant, des épaules vers l'avant, je me disais si j'utilise cette machine, je vais faire partir mes bras. J'ai utilisé celle-là et puis j'ai utilisé l'autre où il fallait soulever vers le haut. Mais au bout de 2 semaines, je me suis plutôt rendu compte que mes bras étaient en train de se muscler.
Exactement.
Pourtant, on m'avait dit ça fait partir les bras. Est-ce que pour faire partir les bras ou alors pour développer le corps, il faut forcément utiliser des appareils musculaires? Est-ce que pour mes bras, j'avais besoin d'aller sur un appareil musculaire?
Non, tout dépend de la force. Ça, il faudra en parler. Tout dépend de la force de la personne. Point de début, en termes de coaching, quand le coach il est bon, il va vous mettre d'abord sur des entraînements au poids du corps.
C'est quoi les entraînements au poids du corps?
Les entraînements au poids du corps, c'est des entraînements qui sollicitent juste votre poids.
Pas besoin
pour
d'appareil.
Vous mettre au travail. On ne va pas vous donner une haltère. On ne va pas vous donner, on ne va pas vous demander d'aller faire un tirage vertical. On ne va pas vous demander d'aller faire une traction, je ne sais pas, verticale là-bas, faire 15 répétitions dessus. On ne va pas vous demander d'aller porter 100 kilos.
On va me demander quoi,
exactement? On va vous demander des exercices simplifiés qui vont vous permettre de vous adapter d'abord à votre force.
Bon, je suis en face de vous, coach.
Exactement.
Je suis venu en salle. Je veux faire partir mes bras et je veux faire partir mon ventre.
Exactement.
Quels sont les exercices avec, c'est-à-dire typiques que je dois pratiquer?
Exercices typiques que vous pouvez pratiquer au poids du corps d'abord, par exemple pour les bras, des demi-pompes. Exercice par exemple pour faire diminuer la taille au niveau de votre abdomen, pour commencer, déjà c'est divisé en 3. Le grand droit, le milieu de l'abdomen, les deux côtés latéralement opposés, l'oblique gauche, l'oblique droit.
Demi-pompe et
les demi-pompes par exemple pour l'abdomen, un crunch.
C'est quoi le crunch?
Un crunch couché sur le dos, jambes tendues ou bien genoux fléchis. Je peux mettre mes mains derrière la tête ou bien je les tends vers l'arrière.
Oui, je vois.
Pour essayer de prendre un élan et permettre de me lever en contactant mon abdomen. Tout en respectant les principes de l'analyse posturale.
C'est vraiment au cas par cas. Oui. Alors, comment vous évaluez les progrès de vos clients et des clients que vous avez à votre charge?
Les progrès des clients vont au fur et à mesure. On essaye d'abord de commencer. Pour commencer, quand on veut commencer un entraînement en construction du corps, on va d'abord sur une évaluation initiale, c'est-à-dire les objectifs du client. On le prend en charge. Ce qui compte aussi dans les objectifs, on compte, on prend son état de santé et ses antécédents médicaux, son niveau de condition physique actuelle. En deuxième étape, on va sur la planification des objectifs à court et long terme. Bon, la majorité de fois, j'utilise les objectifs SMART. Beaucoup, moi, j'ai abrégé comme ça.
Les objectifs SMART.
SMART.
C'est quoi?
Qui signifie spécifique, mesurable.
Ok, mesurable.
Atteignable, réaliste et temporel. Là, il faut se fixer sur ces objectifs-là. Ou bien, il faut se fixer dans le type d'objectif. Sur ce côté. Et après, maintenant, on va sur la sélection d'exercices.
Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là qui abandonnent la salle au bout de 2 semaines parce qu'ils ont des douleurs fortes? Et bon, on dit quand tu as mal, c'est là qu'il faut le faire, mais c'est pas évident. Pendant que tu as super mal, parce que moi j'ai fui la salle parce que je suis tombée malade. Et pourtant le coach me disait quand tu seras malade, il faut venir, mais c'est pas évident. Est-ce que le fait de travailler même pendant la maladie, ça chasse la maladie et puis ça te met en super forme pour continuer?
Non, sur ce côté, je suis pas très d'accord.
Voilà.
Puisque on rentre après dans des phénomènes de micro-traumatisme au niveau des muscles.
Merci.
Déjà quand vous commencez, il faut aller à un rythme vraiment très modéré. C'est mieux au préalable de faire de la planification au niveau de son programme d'entraînement. C'est-à-dire combien de fois je dois venir en semaine, combien de temps je dois travailler, c'est la durée de ma séance, je dois faire combien de répétitions sur un exercice, après je me repose combien de temps, je mange comment, et puis je mange combien de temps avant de venir travailler pour m'aider à la récupération, et je mange comment après avoir travaillé. Oui. Ça, il faut essayer de le planifier. Et pour ce qui est des douleurs, c'est normal qu'après avoir peut-être fait un an, deux ans, trois ans, oui, au plus, sans pratiquer une activité physique, moi, c'est normal de ressentir certaines douleurs sur certains muscles.
Est-ce qu'il faut combattre la douleur par la douleur?
Il faut combattre la douleur par la douleur, pas dans tous les cas.
D'accord.
Pas dans tous les cas. On peut essayer de faire ce qu'on appelle un travail en hypertrophie. C'est-à-dire, si j'ai fait un squat qui a ciblé mes quadriceps, c'est-à-dire les muscles avant de la cuisse, je peux revenir, j'ai mal. Je peux prévoir un repos d'un jour. Je vais continuer à avoir mal. La douleur va évoluer. Et puis, je reviens en salle le lendemain. Je continue de pousser. Je peux pousser pas le même nombre de répétitions que la fois dernière, mais je continue de pousser pour pouvoir parvenir à ce qu'on appelle l'adaptation musculaire, c'est-à-dire entraîner le corps à devenir plus fort. Mais attention, les douleurs qui se produisent souvent au niveau des groupes musculaires provient aussi souvent du manque d'étirement et d'assouplissement au niveau des muscles.
D'accord.
On ne peut pas contracter un muscle, on ne l'étire pas sans avoir terminé. Quand on a terminé, on ne peut pas. Déjà, il faut faire un étirement avant de commencer. Il faut faire un étirement après avoir terminé. Il faut bien s'hydrater.
À ne pas négliger.
Et ça, il ne faut pas négliger cela. Il ne faut même pas négliger. Puisque on agit sur des muscles à contraction volontaire. Les muscles striés, que ce soit le quadriceps, le biceps. Bon, désolé pour les termes un peu techniques.
Non, quadriceps quand même, vous connaissez.
Oui. Que ce soit pour les quadriceps, les biceps, les dorsaux, qui sont des gros muscles, les deltoïdes et tout ce qui va avec. Là, ce sont des muscles striés. Ils ont une contraction volontaire. Ça veut dire quoi? Je prends mon poignet, je plie mon coude, je dis contracte-toi mon biceps, il va se contracter. Mais qui sont très différents des muscles comme le poumon. Je ne vais pas dire au poumon, contracte-toi mon poumon, il se contracte. Non, ça, ce n'est pas possible. Ça veut dire que ces muscles-là, ils ont des propriétés d'être flexibles, d'être contractiles, d'être excitables. D'être excitable, c'est-à-dire quand tu termines, il faut les tirer correctement. Que tu aies fait longtemps sans travailler, que tu viennes de recommencer, que tu es un adepte, tu es là régulièrement, il faut le faire.
C'est bien qu'on parle des étirements et tout, parce que la question suivante que j'allais vous poser, c'est de savoir quelles sont les erreurs les plus courantes que vous observez chez les personnes qui cherchent à construire leur corps. Et comment est-ce que vous corrigez ces erreurs?
Les erreurs les plus courantes chez les personnes qui cherchent à construire leur corps, la majorité des fois, on a d'abord les erreurs de positionnement. Peu de personnes respectent les règles de l'analyse posturale. L'analyse posturale, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles qui définissent comment se positionner pendant un exercice. Je vais faire un biceps, je vais faire un développement sur mes biceps. Comment j'arrête ma barre? Est-ce que je dois fermer mes poignets? Je dois les rapprocher? Est-ce que je dois les écarter? Comment est la taille de mes épaules quand je pousse peut-être un squat ou la forme de mes pieds au sol? Beaucoup de personnes négligent cela. Ils entrent en salle ou bien ils se mettent dans un entraînement. Le principe, il a vu comment on soulève, il soulève aussi. Ça, c'est très délicat. Après cela, il y a les principes de repos. Beaucoup de personnes négligent les principes de repos et de récupération. On ne se repose pratiquement pas. On se dit que c'est le fait de venir en salle de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, matin, soir, midi, qui va participer à la stimulation et puis, je sais pas, à la croissance musculaire. Non, ça ne marche pas toujours comme ça. Souvent, on se rend plutôt malade. J'ai eu je vais essayer de raconter une petite anecdote. J'ai eu à tenir un entraînement avec un monsieur. Bon, je vais taire le nom ici.
Forcément.
Quand il arrive en salle, il me dit moi, je porte 100 kilos. Je porte 100 kilos en développé couché. Et si on va sur des pressions de bar squat, qui est un exercice qui permet de développer le fessier et travailler sur les quadriceps, je peux porter jusqu'à 150 kilos et ça ne me dérange pas. Je lui dis ok, on va essayer. Donc, je vais vous prendre au test. Vous êtes un athlète, vous êtes un super champion. On y va alors. Coach, comment toi tu es tout petit comme ça et c'est quoi? Tu es même sûr que tu vas m'entraîner et tout ça? J'ai dit ok, on y va alors en test. Mais quand il est arrivé sur le développé couché, déjà c'était très mauvais, moche à voir, ça ne donnait pas envie de continuer l'entraînement. J'ai dû le stopper sur le coup. J'ai dit ok, finissez la première séance de 18 voix. Il arrête là-bas, c'était pas conforme, rien n'était bon. Et puis il dit ok, allons maintenant au test du squat. Au niveau du squat, où il y a la flexion des jambes, pareil. On a terminé l'entraînement. J'ai tenu à peine 10 minutes. Je n'en pouvais plus. Ok. Déjà qu'il avait déjà eu une malformation musculaire de type gros en haut, petit en bas, comme vous. Oui.
Communément, Johnny, bravo.
On peut dire comme ça. On peut dire comme ça.
Donc la malformation était donc due au fait qu'il ne faisait pas les choses dans les normes. Puis, mais il ne savait pas, il continuait.
Il continuait parce qu'il se dit en poussant plus de poids, j'ai plus de force et je travaille très bien. Oui. Quand je ne respecte pas la position dans mon travail, je peux porter beaucoup plus et je travaille bien. Et ça ne marche pas toujours comme ça. Il y a des règles à respecter. Si je prends un bidon d'eau de 20 litres, je me mets debout, je le prends, je soulève avec ma main, je le pose sur ma tête et on me dit non. Essaie de t'accroupir plutôt et de soulever le même bidon de 20 litres. Ça ne va pas être pareil.
Le résultat ne sera pas pareil.
Ça ne va pas être pareil même en termes d'endurance déjà. Mm-hmm. Tu vas trouver que t'accroupir, soulever le bidon de 20 litres, il est plus difficile que te mettre debout et tirer avec la main et mettre sur ta tête. Donc, on a fait, après cela, après les 10 minutes, je n'en pouvais plus parce que je déteste voir des personnes travailler sous cette forme-là. C'est pas bon. Et c'est pas beau à voir parce que ça te blesse toi-même le coach. On est rentré en hypertrophie et dit « Ok, je vais vous donner un entraînement sur les 10 autres minutes. On va faire juste un test sur la résistance musculaire et le cardio. C'est tout. » On a repris les mêmes poids. J'ai repris la même barre de 100 kilos qu'il avait posé tout près de lui. Oui, et la même barre fictive faisait le développé couché. Et puis, j'ai changé les poids. J'ai mis 15 kilos d'un côté et 15 kilos de l'autre côté. Vu sa masse musculaire, il fallait le voir, il était assez costaud. Mais j'ai juste corrigé la posture au niveau de son dos, de ses bras. Il n'a pas pu soulever les 30 kilos. Et c'était incroyable, tout le monde était stupéfait en salle. Mais comment il ne parvient pas à soulever les 30 kilos et pourtant tout à l'heure soulever les 100 kilos, c'est pas normal. On a dit non, c'est parce qu'il soulève pas comme il faut. Il s'en donne pas comme il faut. On est rentré avec la même barre de 30 kilos en squats et il n'a pas pu descendre 5 fois de manière rééduquée. J'ai juste rééduqué la position au niveau de son dos, la position au niveau de ses jambes, le positionnement de ses pieds au sol. Il n'a pas pu pousser 5 fois. Il a dit, mais coach, que tu m'as fait quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai dit, non, j'ai juste arrangé votre position. Mm-mm. C'est tout. Mm-mm. Et essayer de continuer dans cette lancée. Directement après, il rentre, il dit, non, je ne viens plus ici. Le coach, si il a des éléments techniques qui sont très difficiles. Après une semaine, il revient. Il dit, je vais travailler avec toi. Mm-hmm. Non, tu m'as traité. J'ai fait 20 minutes et je vais travailler avec toi. Directement, il me répond d'un coup comme ça.
Ok, ça veut dire qu'il est très très important toujours de se rapprocher d'un spécialiste pour avoir les bonnes techniques afin d'avoir de très bons résultats. On reste ensemble, ça c'est la première partie de notre entretien que nous allons clôturer. On va s'arrêter pour Sport Simus, cette rubrique dans laquelle nous mettons en lumière les liens étroits qu'il y a entre le sport, le cinéma et la musique.
Sport, cinéma, musique, c'est Sport Simus.
Trois syllabes, trois univers, le sport qui nous donne l'émotion brute, le dépassement, la victoire, la musique qui lui donne une âme, un rythme, un cœur battant et le cinéma qui immortalise ce mariage, le rendant légendaire. Aujourd'hui, dans Sport Simus, comme nous l'avons dit, nous allons plonger au cœur des plus grands événements sportifs de la planète pour écouter les hymnes qui ont défini des moments historiques. Ces chansons ne sont pas de simples mélodies, elles sont les cris de ralliement de supporters, les bandes originales du triomphe et les déclarations d'espoir des athlètes. Alors préparez-vous à revivre ces moments intenses alors qu'il est 11h41 et que nous entrons dans la dernière partie de cette émission. On débute avec Ricky Martin. En 1998, le monde entier avait les yeux rivés sur la France pour la Coupe du Monde de football. Pour dynamiser la compétition, la FIFA a choisi une star portoricaine encore peu connue mondialement à cette époque-là. Ricky Martin avec son énergie latine contagieuse, The Cup of Life. Alors, la chanson a exporté le rythme latin dans tous les stades. Son refrain, tout ce qu'il y avait autour, est instantanément devenu le cri de guerre planétaire du football, propulsant Ricky Martin au sommet de la gloire internationale. Une victoire pour la musique pop. go go, direction l'Afrique du Sud en 2010 pour la première Coupe du Monde organisée sur le continent africain. Il fallait une chanson à la hauteur de l'événement. Le rappeur somalo-canadien Kna a fourni l'hymne. Initialement, Waving Flag était un titre poignant sur ses luttes et l'espoir en Somalie. Mais pour la Coupe du Monde, elle a été retravaillée en version célébration mixte pour en faire un hymne festif et unificateur. C'est devenu l'hymne non officiel le plus populaire du tournoi, symbolisant l'espoir et la joie de tout un continent. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field there. Unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos, canta y une tu voz. Grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar. Todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes. Somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. Waving your flag. Faisons à présent un saut en 1988 aux Jeux Olympiques de Séoul. La chaîne NBC commande une chanson pour accompagner sa couverture de l'événement et c'est la diva Whitney Houston qui a livré l'essence de l'esprit olympique. One moment in time est une ode à la réalisation de soi. Les paroles capturent le moment où, après des années de travail acharné, l'athlète doit exceller ou atteindre ses objectifs, son destin en un seul instant critique. I want to be a day to give the best of me. Cette balade puissante a transcendé le sport pour devenir une référence mondiale de motivation et de dépassement. Et terminons avec Eye of the Tiger, Survivor, un titre qui illustre parfaitement Sport Simus où la musique et le cinéma rencontrent le sport. Cette chanson a été écrite en 1982 à la demande de Sylvester Stallone pour la bande originale de son film Rocky III. La mélodie emblématique et les paroles sur la concentration et l'instinct du chasseur sont devenues la quintessence de la préparation sportive. Elle a été jouée dans les arénas, les salles de sport et les compétitions pour motiver, devenant ainsi l'hymne universel de la persévérance et de l'esprit de combat. We'll be right back.
my time, took my chances. With the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's deep, I am a tiger. It's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor starts to spread in the night. And he's watching us now in the eye of the tiger.
Of the Tiger, c'est sur cette chanson que nous refermons Sportsimus, cette rubrique dans laquelle nous mettons en exergue le lien étroit qu'il y a entre le sport, le cinéma et la musique.
Sport, cinéma, musique, c'est Sportsimus.
Plus que quelques minutes avant que nous nous quittions, mais avant, nous allons à la découverte de la lutte d'orteil annoncée en début d'émission. C'est bien sûr un saut sport. Ici, nous vous faisons découvrir de nombreux sports insolites, hors du commun, que vous ne connaissez pas, mais qui sont très pratiqués sous d'autres cieux.
Les disciplines sportives les plus insolites, c'est dans un saut sport.
Bonjour, un saut sport de ce matin s'intéresse à la lutte d'orteil. Vous en avez déjà entendu parler ? Je suis sûre que non. Le monde du sport est plein de disciplines exigeantes, mais peu savent se vanter d'être aussi fondamentalement drôle que la lutte d'orteil. Cette compétition, qui est le strict équivalent d'un bras de fer réalisé avec les pieds, est un pilier de l'humour britannique et un spectacle qui attire des curieux du monde entier. Si la lutte sumo a la force du corps et la boxe la rapidité des poings, la lutte d'orteil, elle, met en avant la puissance concentrée du gros orteil. L'histoire de ce sport est presque aussi comique que le sport lui-même. La lutte d'orteil a été inventée en 1974 dans un pub du Derbyshire en Angleterre, le Ye Olde Royal Oak Inn, dans le village d'Ashbourne. L'idée a germé dans l'esprit de quelques amis. La raison était simple. Les Anglais perdaient à l'époque dans la plupart des sports internationaux. L'objectif à la fois ironique et très sérieux était donc de créer un sport que les Anglais pourraient enfin dominer et pour lequel ils pourraient revendiquer un titre de champion du monde incontesté. La première tentative de championnat fut un fiasco. Le manque de règles précises a mené au chaos. Cependant, le sport a été relancé avec succès 2 ans plus tard, en 1976, et les championnats du monde de lutte d'orteil se tiennent depuis lors chaque année dans la région. Cet événement est devenu une institution locale, attirant une attention médiatique qui dépasse largement les frontières du Royaume-Uni. Vous imaginez ça ? En ce qui concerne le Le combat, la simplicité est la clé de la lutte d'orteil. Aucun équipement complexe n'est requis, si ce n'est une planche de bois appelée la Toidium. Le déroulement du duel est simple. Les deux combattants s'asseyent au sol, face à face. Ils placent leurs pieds nus sur la Toidium, une petite plateforme centrale. Les adversaires entremêlent alors leurs gros orteils l'un contre l'autre. Quelle image ! C'est l'étape la plus délicate parce qu'elle nécessite un bon alignement. Le pied qui ne combat pas doit être maintenu de côté ou levé. Au signal de l'arbitre, les lutteurs doivent utiliser la force de leurs orteils et de leurs chevilles pour pousser l'orteil de l'adversaire vers l'extérieur. Le but ici est de forcer l'orteil de l'opposant à toucher la surface du bois de la Toidium à l'extérieur de la zone de combat. Si l'orteil adverse touche la planche pendant 3 secondes, le lutteur remporte la manche. Aussi loufoque que soit cette discipline, les règles sont prises très au sérieux, en particulier en ce qui concerne la sécurité et le fair-play. D'ailleurs, l'étape incontournable et souvent source de rire est bien l'inspection minutieuse des pieds par l'arbitre avant le match. Cette vérification est cruciale non seulement pour l'hygiène, mais aussi pour s'assurer qu'aucun orteil ne soit bandé ou blessé, ce qui pourrait donner un avantage illégal. Un match de lutte d'orteils se joue au meilleur des 3 manches pour assurer l'équité et le spectacle. Les manches se déroulent dans un ordre strict. La première manche, pied droit contre pied droit. La deuxième manche, pied gauche contre pied gauche. Et la troisième manche, si les scores sont à égalité, l'arbitre choisit le pied pour la manche décisive. Les mains doivent rester quant à elles sur la cuisse ou le mollet pour maintenir l'équilibre. Il est strictement interdit de toucher ou de saisir le pied de l'adversaire avec les mains, ce qui transformerait immédiatement le geste en faute. La lutte d'orteil a créé de véritables légendes, souvent affublées de surnoms mémorables. Le plus célèbre d'entre eux est Alan Nasty Nash, une figure imposante qui a remporté le championnat du monde plus d'une quinzaine de fois. Ces champions sont la preuve qu'un mélange de force de la cheville, d'équilibre et d'une prise en orteil bien calculée peut mener à la gloire. En fin de compte, la lutte d'orteil est un sport qui encapsule l'esprit de l'insolite. C'est un événement qui célèbre l'absurde, tout en exigeant une concentration et une force localisé que seuls les initiés maîtrisent. C'est le triomphe de l'humour et le sport le plus terre à terre que vous trouverez. Voilà ce qu'il fallait savoir sur la lutte d'orteil. À la semaine prochaine!
Les disciplines sportives les plus insolites, c'est dans InsoSport.
À la semaine prochaine, même heure, même fréquence, 10h30, 87.9. Passez un excellent week-end et surtout, merci de nous rester fidèles. Au revoir et bon week-end.
L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion.
Est une rediffusion.
Spotify.
Continue d'écouter Spotify via l'application Volume 3 Cameroun.